s'appelait Cécile. Elle était née à Tulle. Elle semblait débile et un peu ridicule dans sa robe en coton avec une fibule portant un chapeau rond et un vieux réticule. Plus laid qu'un sapajou, il était minuscule, myope comme un hibou, têtu comme une mule, étillé par le rut, un jour de canicule. Elle a le droit au but, fit lui son jule. C'est la bulle, puis en se réveillant, elle criait du dul. Que fais-tu, sacré pan?
Je sens que tu mens.
Tourner un petit film des vitesses, un petit peu léger, quoi. Petit peu d'érotisme. Non. Soyez pas effrayés. Pas porno, sûrement pas, mais enfin. Assez osé quand même, mais je crois qu'il en faut maintenant. Hein.
Très vite, on a collaboré. D'abord, je crois qu'il m'a donné un coup de main sur l'écriture du script des Raisins de la Mort, où il a fait le film comme assistant.
Jean Rollin.
Et puis, par la suite, quand on s'est trouvé coincé par l'arrivée des Filmix, il n'y avait plus moyen de faire autre chose que ce genre de film. Il n'y avait plus de salles. Toutes les petites salles qui sortaient des films de série B comme les miens s'étaient reconverties en salle X. Et on s'est trouvé dans une impasse. Moi, je n'ai jamais eu accès aux grands circuits et aux vedettes, etc. Donc, il n'y avait plus moyen de sortir des films fantastiques de série B comme j'en faisais. Donc, on s'est mis, pour survivre, à faire des films X. Et Jean-Pierre, avec moi... est rentré là-dedans, et on a fait d'ailleurs avec un certain enthousiasme, il faut le dire, les premiers films X.
Alors un jour, Jean me dit, voilà, on me demande un truc complètement dingue, un producteur voudrait que je lui fasse un film porno en une journée. Ça me semble complètement aberrant, commencer à tourner à 9 ou 10 heures le matin pour terminer à 6 ou 7 heures le soir. C'est quand même un petit peu du rail dans un décor unique, son direct, avec une caméra 16 minutes tenue à l'épaule. Et moi, je le poussais au cul pour qu'il accepte. Non, mais si, c'est au contraire, c'est très excitant. Faut le faire. Et Jean m'a dit, ok, j'accepte. On tourne tel jour, rendez-vous dans le décor que ni l'un ni l'autre n'avait vu à telle heure. Et puis j'ai trouvé malin la nuit d'avant de faire la bringue, de passer la nuit blanche à beaucoup boire. Je suis arrivé sur le lieu de tournage à 9h du matin, dans un état d'ébriété assez avancé, pas très net dans la tête. Et là, j'ai eu une grande surprise. Jean me dit, écoute, je crois que ça t'émoustille beaucoup plus que moi. Je suis là, je suis sur le plateau, mais... C'est toi qui fais le film, vas-y. Zou. On n'avait pas de scénario, rien, évidemment. Donc il s'agissait d'improviser totalement.
Ça vaudrait ça. T'es pas chez le Toubib, mon vieux, la petite veste, hein? Alors faudrait savoir où je me mets à la
tête. Quand tu déshabilles pour baiser, tu déshabilles pas comme ça, les rabettes. Tu déshabilles d'abord ta bonne femme avec plein de gentillesse, tu lui fais des petites bises et tout. Et puis après, tu te fous à poil, mais déshabille-la d'abord.
Non, parce qu'en plus, il va falloir baiser.
Ouais, ça, on verra après. Hein. Pour le moment, tu la déshabilles.
Voilà, okay. Là, les bras m'en tombent, alors là.
Bon, pour diriger un film tout en l'improvisant au fur et à mesure, il n'y avait pas 150 solutions, vu la rapidité du tournage. Le plus simple, c'était que je fasse tout ça devant la caméra, que je sois assez omniprésent dans le champ, dans le cadre, et que je dirige pour de bon le film à l'image, qu'on me voit qu'on me voit sans cesse en train de diriger les comédiens. Et par là même, ben, j'ai hérité du rôle principal de mon propre film.
Je suis un peu gêné pour là, tout ça.
Ce qui est bien et pas bien, c'est bien parce que c'est très rigolo. Ce qui est pas bien, c'est que je ne me trouve pas du tout bon comédien. Et que ça serait mieux passé si ça avait été un vrai comédien qui aurait fait semblant.
Si jamais ma maman fait ça, je vais avoir des histoires.
Voir les films de cul, ta maman.
Oh, ça, je vous interdis de dire un truc comme ça.
Non, ça, c'est... Non, c'est... Tu te frottes. Oui, comme ça. Hein, vous caressez bien, vous embrassez, vous frottez. Caressez-vous. Là, je veux des mains qui s'égarent, moi. Les fesses vers la caméra, Katia, un petit peu. Voilà.
Oui. Pendant la pause déjeuner, une des comédiennes, qui était une très jeune fille, dont c'était le premier film, mais je crois que c'était à peu près le seul d'ailleurs. On parlait de ce qui chacun nous excitait le plus, et elle dit, moi j'ai un fantasme, un truc que j'ai jamais fait, j'adorerais qu'on me voit pisser. Je lui dis, écoute, c'est formidable, tu vas assouvir ton fantasme, on va le faire. Elle me dit, j'oserais jamais, je pourrais pas, il faudrait que je sois vraiment très 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 excité. Et qu'est-ce que c'est qui te met le plus dans un état d'excitation? C'est quand je me branle. Ben, très bien, tu vas commencer par te branler, puis ensuite tu pisseras. Ce qui fut fait, elle se masturbe en direct, et elle aime vraiment ça, et elle prend vraiment son pied, et je trouve qu'il se passe là quelque chose d'assez magique, parce qu'on voit qu'elle ne fait pas semblant, qu'on voit qu'elle jouit réellement, et je trouve ça très émouvant. Et une fois qu'elle a joui, c'est elle qui donne le signal et qui dit on peut tourner. Je lui... Voilà, elle va le dire. Voilà. Et je lui fais passer un verre. Alors, elle est très intimidée. Elle met le verre en position. Et comme elle est intimidée, elle a du mal à faire pipi. C'est un plan qui est assez fort parce qu'on voit une dame en gros plan qui urine dans un verre et ça relève d'une presque d'un genre à part, d'un sous-genre. Il y a des films consacrés à cette perversion, mais en général dans les films porno normaux de série, on voit pas des gens qui pissent, on voit des gens qui copulent. Et là, je suis très content d'avoir pu filmer cette scène-là, qui précisément fait entrer un peu de perversion très gentille par ailleurs et très mignonne dans le cadre plus traditionnel de la pornographie. Puis là, c'est quelqu'un qui ne joue pas, effectivement, qui ne fait pas semblant. On capte un vrai moment de la sexualité, de la sensualité, du plaisir de quelqu'un. Et ça c'est une chose qui me touche personnellement.
Oui, Amour collectif, c'est un film important aussi, parce que, au contraire des films pornographiques qui sont pour la plupart d'entre eux fondés sur des fantasmes masculins, là, il y a une sorte de désir d'hommage au plaisir féminin, Et je pense qu'une des séquences qui émeut le plus les spectateurs aujourd'hui, c'est celle qui montre une jeune fille en train de se masturber et de ressentir un vrai plaisir, un plaisir non simulé, ce qui est une des ambitions esthétiques majeures de tout le cinéma, je dirais, pas que du cinéma pornographique, mais du cinéma d'auteur en général. Donc montrer la jouissance, montrer une femme qui jouit, enfin voilà, c'est un fantasme masculin général, mais disons que c'est une ambition esthétique très répandue. Enfin, je pense à quelqu'un comme Bergman par exemple, hein, mais d'une certaine façon Godard aussi, et puis beaucoup d'autres.
J'en ai marre, mon Dieu, tu sais. Je peux pas réciter ma prière d'Esther, j'étais venue pour ça.
Bon, bah d'accord, tu la récites, tu te mets debout là-bas près de la plante.
C'est vrai?
Oui. Alors Katia, tu remplaces Rachel. Et tu suces Jean-Louis, bien face à la caméra, hein, tu le suces. Toi, tu prends une pose très, très comédie française. Et surtout, tu mets le ton, hein. Vas-y. Non, toi, tu mets pas le ton pour sucer, quand tu n'as sucé normalement.
Oh, mon souverain roi, me voici donc.
On sera mal, donc tu recommences, tu écartes les cuisses et tu te branles. Ce sera beaucoup mieux. Oh. Oui, il faut démystifier un petit peu le classique, hein.
Je recommence?
Oui, mais branle-toi.
Prêt?
Non, pas non.
Oh, mon souverain roi, me voici donc tremblante et seule devant toi.
Je fais baiser des gens devant une caméra. C'est pas innocent, c'est pas aussi insignifiant que leur demander de boire un verre ou de manger un sandwich. Je leur demande de s'investir dans quelque chose. Il faut être un petit peu cohérent, et en étant cohérent, en étant honnête, il faut que j'aille moi également au bout de cette démarche. Je dois être capable, impérativement, de tourner moi-même une des séquences que je leur demande de tourner. Donc je me suis attribué une scène pornographique. Et au moment de tourner cette scène pornographique, de tourner moi-même cette scène pornographique, il s'est passé un truc tout bête, c'est que je n'aimais plus bonder, parce que c'est pas évident d'avoir une réaction sur commande avec des gens qui sont autour, qui regardent, qui en plus ont des tendances à se fendre la gueule quand même, et à trouver ça très insolite que le réalisateur se mêle de la partie. Et je n'ai pas, j'ai pas réussi. Et ça se termine d'une manière qui me met toujours très mal à l'aise quand je revois le film aujourd'hui. Je suis mal à l'aise d'abord parce que, enfin, ça me met mal à l'aise aujourd'hui. D'abord parce que je m'efforce bêtement et hypocritement, et j'ai eu tort, de cacher que je ne bande pas, au lieu de jouer là-dessus. Au lieu de le dire, au lieu de le faire remarquer, en disant c'est pas si facile que ça votre boulot, moi je bande pas. Là j'ai essayé de donner le change en espérant que j'allais finir par bander. Et ben non, ça n'a pas marché. Je trouve qu'il y a dans toute cette séquence quelque chose de non naturel, qui a une gêne qui est palpable. En tout cas, c'est une séquence que je trouve déplaisante. Et ce que je trouve de plaisante, c'est ça, c'est la fin de la scène. Je fais appel à un comédien en lui disant « Tiens, viens ». Et au lieu de lui dire « Moi, je vais bander », je lui dis « Je rejette la faute », entre guillemets, sur la malheureuse comédienne en disant à mon acolyte qu'elle n'est pas terrible. Et bon, là, je trouve que j'ai eu un réflexe complètement phallo, macho, alors que je m'efforçais de faire un film qui tâchait de sortir de l'ordinaire du cinéma pornographique en n'étant pas phallo, en n'étant pas macho. Et là, c'est moi qui suis tombé dedans à pieds joints. Ce qui était intéressant dans ce film, c'était de faire en même temps un film porno qui remplit son cahier des charges, sans jeu de mots. C'est-à-dire que les gens en avaient pour leur pognon, ils avaient leur content de pénétration et d'actes sexuels divers. C'est un film qui ne triche pas avec ça, qui joue complètement le jeu, qui ne crache pas sur le genre dont il relève, mais en même temps, le film contient son propre making-of, montre ses propres coulisses, montre son propre fonctionnement, et contient la critique du système dont il relève. C'est une mise en abysse et en abîme que je trouvais intéressante. Quelques temps après, il m'a proposé un truc. Il m'a dit, voilà, on me demande de faire deux films en trois jours. Deux films porno. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en fasse chacun un ? Tu seras mon assistant pendant le mien, je serai ton assistant pendant le tien, et on aura un jour et demi chacun pour faire notre film. Alors, j'ai évidemment accepté. Et puis, manque de peau, il y a eu des problèmes de caméra pendant le tournage du film de Jean, la caméra bourrée, il a fallu recommencer certaines scènes. Bref, le tournage de son film a pris les deux premiers jours complets. Il ne restait plus qu'une journée pour faire le mien, donc j'ai dû refaire un film en une seule journée. Et donc ce deuxième film a été fait également en une journée. C'était un petit peu plus sportif dans la mesure où cette fois-là, il y avait quand même un semblant de scénario, quelques scènes dites de comédie. À tourner, c'était un, a priori, j'avais placé la barre un petit peu plus haut, c'était plus difficile à mener à bien en aussi peu de temps qu'un film complètement improvisé. Pour le centre du cinéma, il s'agit de deux courts-métrages. entrez vite et vite je mouille. Je précise que le titre n'est pas de moi, mais a été imposé par un producteur, distributeur plaisantin. Mais surtout, j'avais envie, par exemple, de faire un film où il n'y ait pas une seule fellation. Et lorsque j'ai annoncé ça à notre bailleur de fonds, il a poussé des cris abominables en disant « Mais vous êtes complètement fou, la pipe, c'est ce qui marche mieux, c'est ce qui plaît mieux aux spectateurs. Sur 1h20 de film, il faut 1h07 de pipe, hein, obligatoire. » Et puis je voulais filmer des minettes. Il m'a dit non, ça plaît pas du tout à mon public. Je trouve ça dégoûtant. Non, pas de minettes. Bon, j'en ai quand même mis quelques-unes. J'ai mis un petit peu moins de pipes qu'il ne le voulait. Mais ça j'ai eu droit à des discussions de marchands de tapis avec lui sur la longueur des pipes et des minettes. C'était absolument. Absolument abominable. Quelques plans que je voulais tourner, que je n'ai pas pu tourner. Je voulais par exemple qu'une dame se masturbe avec un crucifix. Ça a été absolument hors de question. J'ai tout juste pu obtenir qu'elle esquisse un signe de croix après s'être masturbée avec un bon vieux vibromasseur. Enfin, ce monsieur m'a emmerdé comme il n'est pas possible. Et même au montage, il trouvait que je prenais trop de temps pour monter. Je voulais soigner au moins ça, au moins le montage du film. Et lui me disait, mais non, faut bâcler. Vous savez, moi, les films que je produis, ça passe dans des salles qui sont fréquentées par des travailleurs immigrés qui n'en ont rien à foutre que ce soit bien monté. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir des pipes. Faites un bout à bout, vous emmerdez pas. Comme je m'emmerdais quand même pour monter, il finit par se fâcher, il finissait par trouver ça très 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 louche. Et je montais dans sa cave, il y avait une table de montage, et pour peaufiner mon montage, j'attendais, alors je partais en même temps que lui, et puis j'attendais qu'il ait tourné au coin de la rue, je revenais en douce, heureusement j'avais une clé, rebasser la nuit dans la salle de montage pour continuer de monter mon film.
Cette fois, c'en est trop. Je vous préviens. Je vais devoir me fâcher.
Hey, laissez-moi qui vient me fâcher, là.
J'en ai assez de votre pudibonde hypocrite. À toi et à ta femme. Vous êtes triste. Je m'ennuyais avec vous. C'est pour ça que j'étais devenu gaga. Maintenant, c'est fini. Je veux rigoler, moi. Profiter de la vie. Ne pas rester un vieux crouton. Mon usine, je la donne aux ouvriers. Les usines aux ouvriers, créneau de nom. Elles ne feront plus d'objets vieux, mais du poil arraché. Et les immeubles, je les vends. Et je vais claquer l'argent à Tahiti, avec Nicole. Je suis amoureux d'elle. Je ne veux plus la quitter. Et vive l'amour, sacrebleu.
Ah, moi aussi, je suis amoureux de grand-père.
Alors, j'ai quand même réussi quelques petites... quelques petits détournements, disons, de façon quasi situationniste. C'est-à-dire que certaines scènes pornographiques, par exemple, sont traitées en très gros plans et montées avec musique adéquate, musique originale, sont montées à la façon des documentaires soviétiques qui relevaient du cinéma le plus stalinien, lorsqu'on filmait des odes à la machine et à l'industrie. Et simplement, j'ai remplacé le jeu des bielles, des pistons, par le jeu des sexes qui s'imbriquent. Mais c'est montré, c'est monté de la même manière, sur le même rythme, avec le même cadrage. Ce monsieur n'a heureusement vu que du feu. Il y a des intertitres façon cinéma muet, il n'est pas vraiment pour, mais enfin, j'ai quand même pu les monter. Je me suis dit, merde, si, si c'est comme ça et la tendance était que ça devienne de plus en plus comme ça de façon généralisée, s'il s'agit simplement de filmer des turlutes à la queue leu-leu pour les monter n'importe comment et que les films n'ont pas de propos, ben, ça ne m'intéresse pas réellement, donc j'arrête d'en faire. Je préférais ne plus tourner que tourner des ondouilleries à la commande et à la chaîne. À part Jean Rollin, dont j'étais l'assistant, le comédien, le co-scénariste, sur un nombre assez important de films. Alors, j'ai bossé sur des productions extrêmement commerciales de série Z pour une maison de production folklorique qui s'appelle Rossiné, qui produisait des films à très 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 petit budget pour des marchés mystérieux. Il y a des films qu'ils ont produits pour le marché africain. Alors, je ne sais pas quels étaient les pays qui achetaient ça au rabais, mais c'était vraiment produit dans des conditions calamiteuses. Et puis, je bossais aussi pour la même maison de production sur un film qui s'appelait Train spécial pour Hitler. C'est un jeune réalisateur, Alain Payet, qui ensuite s'est spécialisé en cinéma porno, qui avait hérité de ce tournage, qui pour Rossiné était un gros tournage. Il y avait un train qui avait été loué. Et puis quand il manquait un figurant, c'était moi qui m'y collais. Si bien que je dois faire à peu près une quinzaine ou une vingtaine de silhouettes différentes dans le film. Et par l'artifice du montage, il se passe un truc assez fabuleux, je trouve. On voit un soldat américain, un soldat nazi, un vilain nazi, qui vise avec son flingue, qui met en joue quelque chose, c'est moi. Et puis il y a le contre-champ, où l'on voit ce qu'il visait, c'est un soldat américain, qui tombe, qui est blessé, c'est moi aussi. Et là, il y a un type de la Croix-Rouge qui se précipite au secours du soldat blessé, et c'est moi également. C'est quand même génial.
Well, you just wait. They'll find you yet. And when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away, ha-ha.
Le cinéma fantastique, le cinéma érotique formait pratiquement un tout dans ces années-là, c'est-à-dire là, vers le mi-temps des années 60. D'abord parce que c'était dans les mêmes salles qu'on voyait les films... les films d'horreur et les films de fesses. C'était dans le même circuit qu'ils étaient distribués, c'était les mêmes salles qui les programmaient. À Paris, c'était notamment le Midi Minuit qui avait donné son nom à la revue de Losfeld, le Midi Minuit Fantastique. c'était plus ou moins le même public. Il me semblait difficile de s'intéresser à Terence Fisher sans s'intéresser aussi à José Benazeraf, de la même manière qu'il me semblait difficile d'aimer lire Bram Stoker sans aimer lire Histoire d'eau. Ce sont deux univers très proches. D'une certaine manière, on peut considérer d'ailleurs la littérature érotique comme... c'est pas moi qui viens de découvrir ça. C'est une vieille tarte à la crème. La littérature érotique n'est-elle pas la version adulte du conte de fées?
On raconte tellement de choses erronées sur notre conte. Tenez, par exemple, on prétend que les victimes des vampires deviennent toutes vampires à leur tour. N'en croyez rien. Ce n'est qu'une superstition. Où irions-nous, bon sang, si tous les gens que nous mordons rejoignaient nos rangs? Nous finirions par devoir nous sucer mutuellement le sang entre vampires. Ce serait fâcheux.
Il y a une époque où je travaillais pour une petite maison d'édition qui sortait toute une brochette de petits magazines de cul, et ils avaient eu l'idée de faire un magazine sur le cinéma érotique, ou plus exactement sur l'érotisme au cinéma. Et comme j'avais beaucoup d'archives photos, ils avaient fait appel à moi, j'y collaborais, j'étais copain avec les gens qui s'occupaient de ça. On était une petite équipe de 4 personnes pour faire ce magazine, et puis qui a fini par être interdit. Et ces éditeurs-là m'ont dit un jour, « Dis donc, t'as plein de trucs chez toi, il se fait que je m'intéresse depuis à peu près toujours... À l'érotisme à la Belle Époque de façon générale et à l'érotisme de la Belle Époque de façon plus particulière. Donc j'avais surtout beaucoup de documents d'archives, des tas de photos, des tas de livres, des tas de magazines, de documents divers. C'est un domaine que je connaissais bien la littérature fin de siècle, je connaissais bien le cinéma muet, je connaissais bien l'histoire du musical de cette époque, ainsi de suite. Et ils m'ont dit, on a une idée formidable, toutes ces photos sont libres de droit, on va faire un magazine qui ne va rien nous coûter, avec la collection. Et donc j'ai fait ce magazine pour eux, qui s'appelait Fascination.
Tu es ainsi parce que ta passion est de lire trop de mauvais magazines. T'as une fascination qui donne un frisson bien plus polisson que tu n'imagines.
Et pour un budget absolument ridicule ou aucun... qu'un journaliste sérieux n'aurait accepté, parce que je n'avais pas de quoi acheter de documents exprès, je n'avais pas de quoi payer de pigiste, c'était fait sans pognon.
La seule censure qu'il pouvait avoir était d'ordre économique, puisque pour autant que je sache, c'était très mal payé, ça ne lui rapportait pas de quoi vivre. Donc ça, c'est une censure. Quand vous faites quelque chose et que ça ne vous permet pas de vivre bien, correctement ou bien, c'est la première des censures, et la plus grave peut-être. Mais Jean-Pierre passait au-dessus de ça, parce qu'il était riche par ailleurs dans d'autres domaines de possibilités.
Et comme il fallait que ça ait une apparence de sérieux, il y avait un comité de rédaction mentionné dans l'Ours. Et alors j'étais rédacteur en chef sous mon nom, et puis le comité de rédaction, c'était une suite de pseudonymes à moi. J'étais un comité de rédaction à moi tout seul. Et je dois dire que ça fait partie des choses que j'ai faites dans ma vie, dont je suis plutôt content. C'était une bonne revue. Et oui, j'ai parlé de tas d'écrivains passionnants dont plus personne ne parlait depuis longtemps. Oui, j'ai parlé de films qui étaient oubliés. Oui, j'ai parlé de peintres complètement méconnus. Ouais, je crois que j'ai fait du bon boulot. En tout cas, ça a été payé très abondamment ensuite dans des tas de publications apparemment beaucoup plus sérieuses.
Moi, je le trouvais pas doux. Parce que j'avais entendu Jean-Pierre, pendant des années, me parler de tous ces sujets, de toutes ces thématiques, mais il n'en sortait pratiquement rien. Et là, d'un seul coup, il pouvait le mettre sur le papier et le faire partager à d'autres. Et c'était... Il n'y avait pas de revue comme ça, multi-genre, qui en plus... se foutait complètement des acquis, des genres, des styles. Il suffisait que ce soit quelque chose qui fasse penser, il suffisait qu'elle soit quelque chose qui fasse jouir, et Jean-Pierre sautait dessus et en parlait et le faisait partager avec toujours ce que je vous ai dit au début, ce souci pour Bouixou d'aller le plus loin possible jusqu'à chercher et trouver tous les détails à partir d'un thème dans tous les pays, dans tous les genres, dans tous les systèmes, pour raccrocher les choses les unes aux autres et que ça devienne, au bout du compte, une conception du monde. Mais pas de façon prétentieuse, toujours de façon ludique. La seule prétention qu'on pourrait lui porter, mais elle est un peu involontaire, c'était de dire merde au pouvoir établi et à tout ce qui pouvait être académique. Bon, mais est-ce que c'est une prétention? Ça, je ne crois pas.
C'est vrai que dans ses activités éditoriales, il a, à partir de 1974, dirigé avec le romancier Jean-Patrick Manchette, autre figure de proue, sensible d'ailleurs à pareille époque à la critique radicale situationniste, une collection de romans de science-fiction chez Hachette qui s'appelait Futurama, collection concurrente de celle que les éditions Champs Libres avaient lancée qui s'appelait Chute Libre. Et ensuite, Raoul Van Eghem a branché Bouixou sur une collection que Jean-Claude H. s'apprêtait à lancer aux éditions de La Brigandine. Il y a eu deux collections jumelles, hein, Brigandine et Bébé Noir, qui étaient des collections de romans érotiques relativement bon marché, qui étaient d'ailleurs absolument tous écrits sous pseudonyme. Van Eghem en a lui-même signé deux, un certain nombre d'écrivains, de romanciers d'ailleurs en ont signé d'autres, et Jean-Pierre Bouixou d'ailleurs possède le record puisqu'il en a signé 12 sous un certain nombre de pseudonymes: Georges Le Gloupier, Claude Raza, Jérôme Fandor, bon, et qui sont des romans qui mêlent à la fois l'érotisme, le fantastique de façon extrêmement singulière. Et qui sont devenus d'ailleurs aujourd'hui cultes.
Tout ça a été très, très calibré, très programmé. C'était un nombre de pages. Il fallait faire des tapuscrits de 182 feuillets, très exactement, tout à fait calibré, avec un pourcentage de scènes de fesses. Alors au début, il fallait, je ne sais plus, mettons 10 ou 15% de scènes de cul, avec surtout aucun mot obscène, aucun mot grossier. Vous pouvez parler du membre turgescent, mais pas d'habite. Et puis au fur et à mesure que la collection a vécu sa vie, s'est bien marché d'ailleurs, et n'avait pas trop eu d'ennui, enfin elle en a eu quand même, elle a même été interdite, mais elle a changé de nom, elle a pu reparaître. Bref, ça s'est enhardi, et finalement, certains des bouquins pouvaient n'être qu'une succession de scènes de cul extrêmement crues. Ce qui était intéressant dans cette collection, c'était la liberté dont on bénéficiait. Et dans ces petits romans érotiques, écrits très 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 vite, on pouvait faire passer un certain nombre d'idées, en fait toutes les idées qu'on voulait. On pouvait faire des brûlots, des choses extrêmement subversives. Et personnellement, je ne m'en suis pas privé.
Donc c'est véritablement, effectivement, à l'époque, encore une fois, la possibilité, j'allais dire, de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire d'abord de trouver une activité économique, comme disait Van Eghem, de survie, hein, pour assurer son existence, et en même temps, justement, de s'installer dans des canaux de diffusion, comme pouvait l'être le cinéma pornographique dont on parlait tout à l'heure, qui, en tous les cas, potentiellement, s'adresse au plus grand nombre. Et donc, à l'intérieur de ces circuits, d'essayer d'offrir quelque chose de différent dans la forme et aussi dans le fond. Car une fois de plus, à l'instar de ces articles ou de ces films, les romans de Jean-Pierre Bouixou, évidemment, sont relativement riches en idées radicales.
Certains attaquent la religion directement. Il y en a même un où, dont le personnage principal, parfaitement mécréant, parfaitement athée, s'aperçoit un jour que Dieu existe, c'est lui. Et je crois vraiment que c'est le livre le plus anticlérical et le plus anti-religieux que j'ai personnellement commis. Alors, lorsque le héros de mon petit roman, qui s'appelle L'Odieux Tout-Puissant, se rend compte, apprend qu'il est Dieu, le Fils, parce que c'est son père. Un jour, il rencontre un vieux bonhomme qui lui dit tu es mon fils. Tu as déjà eu un frère il y a très longtemps, qui est mort à 33 ans, mais c'était un con. Moi, maintenant, j'en ai marre, je prends ma retraite, je passe ta main. Voilà, je suis Dieu, tu vas devenir Dieu à ma place. Et ce brave garçon expérimente son pouvoir en faisant diverses petites facéties, juste pour tester, pour voir. Alors il transporte d'abord la tour Eiffel au sommet du Mont Blanc, puis Paris tout entier au bord du lac Titicaca, puis pendant une allocution du président de la République, il lui fait pousser une bite à la base du nez. Et là, le président de la République, qui s'appelle Edmond Cussé du Poulet, c'est évidemment Valéry Giscard d'Estaing, de surprise, se met à hurler et se mord les couilles en voulant hurler. Enfin, des petites choses dans ce genre-là, tout à fait aimables. Et puis, à la fin du livre, comme le héros, Dieu, trouve l'humanité décidément trop conne, et bien il décide que ce sera la fin du monde.
Médias, superstition.
En quelque sorte, j'ai l'impression aujourd'hui que Jean-Pierre Wixou, il a vécu et créé comme si la révolution que tout le monde voulait faire quand il avait 20 ans, donc il avait, comme il l'écrit dans sa biographie, 20 ans en 1966, comme si la révolution avait eu lieu. Et il a vécu comme ça toute sa vie. Et c'est du coup une sorte d'utopie incarnée, voilà, qui donne beaucoup de force aux gens qui le rencontrent et à son œuvre elle-même, bien sûr. Et alors, c'est quoi cette force, pour le dire très vite? C'est la force du plaisir. C'est la force de la libido absolument inextinguible et heureuse d'elle-même.
Il n'y a qu'un petit truc que je regrette, c'est que lors du mixage, on m'a forcé la main et pour la seule fois dans le film, les râles de plaisir de la fille ont été ajoutés. Ce ne sont pas ces vrais gémissements à elle. Et ça, je trouve que c'est dommage, même si ça donne un côté presque un petit peu onirique à la chose, parce qu'elle a vraiment le plaisir très démonstratif. Mais j'aurais préféré que ce soit ces vraies réactions qu'on entend et rien d'autre. Ils l'ont fait, hélas, un petit peu trop. Mais je trouve ça assez chouette que ça se termine par cette enculade en apothéose, comme le moment de grâce d'une cérémonie initiatique. Je trouve ça esthétiquement assez chouette.
C'était Jean-Pierre Bouxou, de la Pisse dans le Bénitier. Par Yves-Marie Mahé. Avec Laurent Chollet, Philippe Bordier, Nicole Brenez, Noël Godin et Jean Rollin. Avec des extraits des films Ça t'embouche un coin, Graffiti, Amour collective, Entrez vite, vite je mouille et L'étrange festival. Avec un extrait de la pièce radiophonique Bloody Mary, 2003, et deux morceaux du groupe Consternation avec Jean-Pierre Bouxou. Jean-Pierre Bouixou a aussi réalisé deux documentaires, L'étrange festival en 2001 pour Arte et Les Vampes fantastiques en 2003 pour Ciné Cinéma. L'aventure hippie, coécrit avec Pierre Delannoy en 1992, vient d'être réédité en 10-18. Il a aussi coécrit à propos de Pierre Moulinier en 1999 et publié un texte dans Jeune, dur et pur, une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France, édité en 2001. Jean Rollin vient de publier Jean-Pierre Bouixou contre la femme au masque rouge aux éditions ABC. Prise de son, Pierre Garrigue. Alexandre James. Mixage, Manuel Couturier. Réalisation, Thomas Duterre.